Eva Illouz observe ses contemporains sous tous les angles, scrute la moindre de leurs palpitations. Sociologue des sentiments, elle dénonce la tyrannie du bonheur et la marchandisation des émotions. Son regard sur la société lui a déjà valu d'être désignée par la presse allemande comme l'une des intellectuelles incontournables pour comprendre le monde qui se dessine. Franco-israélienne, née en 1961 à Fès, dans une famille juive marocaine, Eva Illouz a 10 ans lorsqu'elle découvre Sarcelles et ses grands ensembles au nord de Paris. Étudiante aux États-Unis et en Israël, elle se tourne vers la sociologie. Un choix déterminé par un livre, Belle du Seigneur d'Albert Cohen, une passion amoureuse façonnée par le statut social.
Au début, au baiser, au plaisir de la femme, à la bouche de l'homme.
Enseignante à l'Université hébraïque de Jérusalem, chercheuse à l'École des hautes études de sciences sociales à Paris, Eva Illouz continue d'explorer le sentiment amoureux et le capitalisme affectif. De l'explosion des sites de rencontres au succès de 50 nuances de grès, en passant par l'engouement pour la psychologie positive et les coachs en bonheur, la sociologue décortique les codes qui nous conditionnent et nous sommes d'être heureux.
Il y a ce que j'appellerais une affinité entre le néolibéralisme cette quête du bonheur.
Dans cette économie du bonheur, nos émotions sont devenues des marchandises que se disputent le cinéma, l'industrie du disque, le tourisme ou encore les cartes de vœux. Au fil de ses ouvrages, Eva Illouz désenchante notre quotidien pour nous pousser à le rendre plus authentique.
Oui, on ne peut plus être dupe avec vous, Eva Illouz, lorsque l'on pense à tout ce que l'on ressent, amour et autres affections. Votre dernier travail, c'est un travail collectif, les marchandises émotionnelles. Donc, qu'est-ce que c'est ces marchandises émotionnelles? Des émotions conçues et vendues comme des marchandises?
Alors, effectivement, le capitalisme, c'est un très grand système économique, mais pas seulement. C'est aussi un grand système culturel. C'est aussi un imaginaire et c'est un système culturel et économique qui a su très bien recruter le sujet, l'individu, en par exemple repensant la relation des acteurs au travail. Dans les années 30 à peu près aux États-Unis, se dessinent de nouvelles théories du management qui ont pour but de rendre les travailleurs plus productifs. Mmh. Et alors, on s'aperçoit progressivement que pour rendre les travailleurs plus productifs, il faut les rendre loyaux, il faut les faire aimer leur travail. Donc, c'est une façon d'atteler, si vous voulez, les émotions. La sociologue Arlie Hochschild, dans les années 70, a conçu une nouvelle idée. C'est l'idée du labeur émotionnel. C'est cette idée qu'il y a des gens, en particulier les femmes, les hôtesses de l'air par exemple, dont on demande qu'elles soient aimables, souriantes, et donc ce qu'elles sont sommées de fournir, ce n'est pas le travail à la sueur de leur front et de leur corps, mais c'est du travail émotionnel. Donc voilà, ça c'est un des exemples multiples de la façon dont le capitalisme a recruté nos émotions. Les marchandises émotionnelles, c'est autre chose. Alors il s'agit de la façon dont, après les années 50, je dirais, mais surtout après les années 70, on commence à nous vendre des marchandises pour leur valeur émotionnelle, pour l'expérience
qu'elles procurent.
Pour l'expérience émotionnelle qu'elles procurent.
Exemple, le Club
Med. Ou pour la relation émotionnelle qu'elles permettent d'exprimer et de renforcer. Un des exemples, c'est qu'en 1912, par exemple, Thomas Edison, donc avec l'industrie de la musique et du disque qui commence, Thomas Edison a l'idée de classifier différentes musiques en fonction de leur atmosphère musicale. Il n'a pas mis ce projet à exécution. Ce n'est pas devenu une marchandise. Si vous voulez, c'est un des premiers exemples de ce que j'appelle une marchandise émotionnelle.
Il y a les marchandises émotionnelles et puis il y a le langage émotionnel qui aujourd'hui a pris une dimension très spectaculaire sur nos téléphones à travers ce qu'on appelle les émoticônes, donc ces petites figurines qui sont chargées de retranscrire les émotions, toutes les nuances de nos émotions. Qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle pratique, presque cette nouvelle langue?
Alors, les émoticônes ne sont pas inclus dans ce livre, mais ça aurait pu être un exemple excellent pour parler de marchandises émotionnelles, puisque, en fait, si vous regardez l'évolution de l'Internet et des technologies et des nouvelles technologies, on voit qu'il y a vraiment un mouvement d'émotionnalisation de ces technologies. Et les émoticônes, leur but, c'est de permettre une communication émotionnelle rapide. Donc, les téléphones deviennent des moyens d'exprimer des émotions telles qu'elles sont codifiées par des icônes.
Donc elles sont standardisées, ces émotions.
Exactement, elles sont standardisées. D'ailleurs, très souvent, enfin, les gens peuvent s'amuser à changer la signification. Mais la communication essentielle qui se fait par ces téléphones, c'est une communication émotionnelle.
Eva Illouz, en relation avec votre travail sur l'injonction au bonheur, l'injonction générale au bonheur dans cet ouvrage Apicratie, on va évoquer avec Nadia le bonheur au travail.
Oui, parce que être heureux au travail, c'est du boulot. En France, il y a 200 personnes qui occupent le poste qu'on appelle aujourd'hui Chief Happiness Officer ou encore Feel Good Manager. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont rémunérées pour garantir le bien-être des salariés. Et c'est un boulot, un job qui a aujourd'hui des déclinaisons. En l'occurrence, en France, Casino, qui est ce grand groupe de distribution, a sélectionné des salariés sur la base de leur altruisme, de leur gentillesse, donc qu'ils soient caissiers ou chefs, hein, on leur a assigné une mission qui est bénévole, c'est celle de veiller sur leurs collègues. Concrètement, ils vont par exemple devoir remonter le moral d'un salarié malheureux le matin à la machine à café, accueillir, mettre à l'aise un nouveau, répandre de la bonne humeur. On les appelle également les sentinelles, les détecteurs de souffrance ou encore les Amélie Poulain, comme dans le film. Qu'est-ce que ça vous inspire que ça vienne plus de ce qu'on appelle la DRH, hein, les ressources humaines, mais que ça doit venir de l'intérieur? Et occupez-vous de vous, entre vous. Rendez-vous heureux au travail.
Alors, le travail, le lieu de travail, beaucoup de lieux de travail provoquent de la misère. On n'y est pas reconnu comme on voudrait. On est sujet à une autorité abusive parfois.
Il y a de la pénibilité.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le bonheur, c'est une nouvelle injonction à être positif. C'est-à-dire à ne pas signaler aux autres qu'on est mal. Et donc il s'agirait en quelque sorte de créer des normes, de nouvelles normes qui seraient diffusées par le bas pour que la positivité devienne aussi un avantage et un atout professionnel.
Parce qu'être mal, c'est être faible. C'est ça le signal que ça envoie ?
Oui, être mal, c'est être faible, exactement. Quand vous êtes positif, en fait, je pense que vous signalez le succès. Et le succès, c'est sans doute ce qui nous donne le plus de statut social dans les sociétés capitalistes contemporaines.
Eva Illouz, être mal, c'est être faible et c'est être non productif. Alors, quelle place dans ces sociétés capitalistes que vous décriez, évidemment, quelle place pour les mélancoliques, quelle place pour les gens qui s'ennuient, quelle place pour les dépressifs, pour ceux qui ne rentrent pas dans le système et qui ne sont pas productifs, de ce point de vue-là.
Ils sont, ou bien pathologisés,
c'est ça,
ou bien intégrés dans un circuit psychologique. Alors, la psychologie...
Mais vous récusez la psychologisation à outrance.
Oui, alors là,
pourquoi ?
Alors, je ne conteste pas l'utilité individuelle de la psychologie, mais la psychologie a eu pour effet de dépolitiser la misère sociale et le malaise social et de le privatiser, c'est-à-dire de faire de l'individu le seul propriétaire véritablement de sa misère.
Et responsable, donc.
Exactement, exactement. Et la psychologie crée, je dirais, de nouvelles hiérarchies sociales entre ceux qui vont bien et ceux qui vont mal.
Eva Illouz, quel antidote? Comment fait-on pour retrouver ce qui n'a pas de prix, comme dirait la philosophe Annie Lebrun? Est-ce qu'il faut faire un écart absolu? Est-ce qu'il faut... que faire?
Que faire
pour se désaliéner?
Pour moi, il faudrait simplement revenir... ou en venir à une existence orientée vers des valeurs morales et éthiques. La justice et la connaissance, pour moi, ce sont deux valeurs qui sont de très bons substituts à la poursuite du bonheur.
Et la philosophie,
ça ne veut pas dire, mais la philosophie...
Comme disait Épicure.
Oui.
Et elles sont compatibles avec le libéralisme, vous considérez?
La justice et
la connaissance.
Oui. Le néolibéralisme crée des injustices, bien sûr. Mais la justice et la connaissance sont compatibles avec toutes les sociétés, puisqu'il s'agit de vouloir se battre contre les injustices et l'ignorance que toutes les sociétés créent.
Précisément. Merci, Eva.